Vous êtes à l'écoute de France Culture. Il est midi. Nous retrouvons Olivia Jesbert. Olivia, bonjour.
Oui, bonjour. Pour la grande table dans quelques minutes. Pour l'instant, on va faire un point sur l'information avec Antoine Mercier. Les titres, Antoine, à
bonjour,
midi.
Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un an après, jour pour jour, après la décision d'Angela Merkel d'ouvrir les frontières aux réfugiés, son parti, la CDU, est pour la première fois devancée par l'extrême droite dans une élection régionale. Le mouvement Alternative für Deutschland réalise en effet une percée dans le land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. On aura toutes les précisions tout à l'heure sur les réactions, notamment en Allemagne, avec Cyril Sauvageau. Des routiers, des commerçants mobilisés par des opérations coup de poing à Calais. Ils réclament toujours un démantèlement du camp de migrants le plus rapidement possible. Reportage sur place tout à l'heure avec Géraldine Allot. C'est le deuxième et dernier jour du sommet du G20 en Chine, la crise des réfugiés qualifiée de défi mondial, échec par ailleurs à signaler de discussions russo-américaines sur la Syrie en marge de la rencontre, compte rendu avec Jean-Marc Chardon. Et puis le parquet de Paris, on l'a appris ce matin, demande un procès pour Nicolas Sarkozy et 13 autres personnes mises en examen dans l'affaire Big Malion. C'est la dernière étape avant un possible renvoi en correctionnel qui pourrait assombrir la campagne de l'ancien président pour la primaire à droite. Précision de Florence Turme et de Ludovic Piétenu. L'invité de la séquence interview, ce sera Nicolas Dupont-Aignan, candidat souverainiste à cette même présidentielle. Voilà pour les titres, c'est à vous. Donc Olivia Jesbert, la grande table.
Merci beaucoup Antoine, merci. On vous retrouve dans moins d'une demi-heure avec votre rhume, j'entends.
Voilà, hein, toujours un petit peu, excusez-moi.
Non, en tout cas, vous êtes toujours très agréable à écouter. À tout de suite Antoine, la grande table, c'est parti. Bonjour, bonjour. Si heureuse de vous retrouver au sommaire ce lundi de votre magazine des arts et des idées. Dans la deuxième partie de La Grande Table, Marine Le Pen a fait sa rentrée politique ce week-end. À 8 mois du scrutin, elle lance sa campagne, cap sur la présidentielle. Libre et sûre d'elle-même, la présidente du Front National incarne-t-elle vraiment la rupture? Ou son succès n'est-il que l'aboutissement d'une longue gestation? Coup d'œil dans le rétroviseur avec l'historien Grégoire Kaufmann qui signe ce mois-ci le nouveau Front National au seuil. Mais d'abord, en première partie de La Grande Table, une belle rétrospective, celle que les Arts Déco consacrent à Roger Talon, designer du rail iconoclaste. Vous l'aurez compris ce midi, quand l'avenir se lit dans le marre du passé.
Grande table. Olivia Jesbert.
Roger Talon a travaillé pour Frigidaire. Il a redesigné l'électroménager de nos mères et de nos grands-mères, puis les appareils photos ou encore les postes de télévision de nos pères. Oui, c'était comme ça à l'époque, hein. Et puis surtout, il a fait des trains, des petits, des grands, des corails, des grandes vitesses, des à deux étages, des qui passent sous la Manche, et même le métro de Mexico, le tramway de Tours et le funiculaire de Montmartre. Roger Talon, le design en mouvement, décédé il y a 5 ans, ingénieur de formation, passionné d'aviation, pionnier du design industriel français, celui pour qui les designers les vrais sont des masochistes, fait aujourd'hui l'objet d'une rétrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris et à partir de jeudi. Un retour sur œuvre ce midi, accompagné de 3 invités. Dominique Forest, tout d'abord, bonjour. Vous êtes conservatrice en chef au Musée des Arts Déco et l'une des commissaires de l'exposition avec Françoise Jolland, historienne du design. Bonjour à vous. Régine Charvet-Pello est à vos côtés, designer française, directrice de RCP Design Global, collaboratrice de Roger Talon sur le projet du tramway de Tours et actuelle designer de la ligne de TGV Paris-Bordeaux. On commence avec un coup d'œil sur cette rétrospective. Quelles pièces de Roger Talon vous allez montrer qui vous paraissent plus que symboliques, importantes de ce qu'il a fait? Il y aura, on imagine, un exemplaire du fameux escalier module, peut-être une caméra duplex, une téléavia. Dominique Forest, cette télévision si particulière, en bulle.
Alors oui, l'exposition compte beaucoup de projets, alors des très connus, comme la télévision portable pour téléavia, comme l'escalier fait pour la cloche et édité par la galerie Santou, des maquettes de trains aussi, mais aussi beaucoup de nouveautés que les gens ne connaissent pas, n'ont jamais vues. Par exemple, tout son travail pour Pathé, tout son travail pour Frigidaire, tout son travail pour des maisons qui ont aujourd'hui disparu, Eurosite, avec en filigrane beaucoup d'entreprises françaises pour lesquelles il a travaillé, qui n'existent plus, et avec comme ligne de conduite de tout ce travail un design industriel qui a vraiment remodelé notre quotidien.
Son travail pour Pathé, quand vous dites ça, pour le cinéma, qu'est-ce qu'il avait fait ?
Il a fait plusieurs caméras et appareils de projection qui sont ses tout premiers projets dans les années 55. Et effectivement, on les a un peu oubliés.
Roger Talon disait mener un combat contre la laideur et la médiocrité de nombreux objets manufacturés français. Il a su rendre indispensable, quelque part, se rendre indispensable, lui et son design, hein, Régine Charvet-Pelloz, dans la France consumériste de l'après-guerre. Il voulait apporter quoi à son public ?
Je crois que surtout il voulait montrer qu'il ne fallait pas rester que technicien. Il disait lui-même qu'il était designer, mais s'il ne faisait que designer seulement, c'était pas intéressant. Ce qui lui plaisait beaucoup, c'est accompagner un peu ses projets avec une approche artistique, une approche sociologique, une ouverture sur le monde, et une ouverture sur le monde actuel, sur le monde contemporain. Et c'est ce qui a fait la grande différence de Roger Talon, cette générosité. Et c'est effectivement, alors, cette générosité-là ne lui donnait un discours souvent un peu direct. Et quelquefois, tout le monde s'effarouchait, quelques-uns s'effarouchaient en tous les cas de ce discours. Mais nous avons travaillé merveilleusement bien.
Il avait son franc-parler, hein, Roger Talon.
Exactement.
On va l'entendre.
Et je peux vous dire qu'il, comme on dit, il balançait pas mal.
Dominique Forest, c'est ce que vous avez le sentiment ? Qu'est-ce qu'il cherchait à apporter à son public, Roger Talon ?
Je pense que il faut distinguer plusieurs périodes. Il y a l'immédiat après-guerre, où la situation est totalement différente de 50 ans plus tard, lorsqu'il va travailler au tramway de Tours, par exemple. Mais si on prend la période de l'après-guerre, tout est à reconstruire. Et la génération de ces jeunes gens, dont fait partie Roger Talon, ils ne veulent plus ce qui s'est passé avant, et ils tirent un trait dessus. Ils sont complètement tournés vers l'avenir et pas du tout vers le passé. Ça n'est d'ailleurs pas propre au domaine du design. On trouve la même chose dans l'art, on trouve la même chose en architecture, etc. Mais Roger Talon s'investit particulièrement dans la reconstruction.
La reconstruction de quoi ?
Ben, la reconstruction de la France, la reconstruction des infrastructures, de l'industrie. Et on s'aperçoit, par exemple, que l'industrie française va mettre une dizaine d'années avant de récupérer sa capacité à produire français.
Donc c'était pas que du design d'objets, c'était beaucoup de design aussi, d'infrastructures effectivement, avec l'idée de viser un grand public. On va l'écouter. Avant de mourir, Roger Talon disait à Télérama que le plus important pour lui avait été de garder sa liberté et de ne pas avoir fait partie des serviteurs de la bourgeoisie. Les mots sont forts, hein, quand même. Il avait une conception assez particulière du design et de son rôle. Écoutons-le.
Je crois que s'il y a une grande confusion en ce moment sur la terminologie et sur le problème du design, c'est qu'on utilise abusivement ce mot et qu'on confond souvent le design, c'est-à-dire l'acte de concevoir, l'action, la conception, avec le marché, les produits qui en résultent. Et alors là, évidemment, on se rejoint parce que c'est vrai qu'actuellement, on vend du design. Et ça, c'est abusif. Si certains produits sont inaccessibles et sont très chers, c'est qu'effectivement, une certaine catégorie social, seul, s'intéresse à ces produits et donc se les approprie en limitant le niveau de leur accès, de leur accessibilité. Mais par contre, un autre design très démocratique se manifeste également, on peut dire, dans la foulée. Et je crois que c'est le consommateur lui-même qui décide de ça.
Et Roger Talon ne disait pas client, il disait usager.
Alors le problème du client, c'est à mon avis le point essentiel de la qualité du design. Et je ne dis pas client, je dis l'usager. Alors, dans le problème, les problèmes d'objets techniques, par exemple, vous évoquez l'après-vente, ça ne relève pas du designer seulement, ça relève de l'ingénierie, de tout ce qui est technique et fiabilité, c'est-à-dire bonne conception technique d'un produit. Par contre, dans le rapport de l'usager avec l'objet, il n'y a pas seulement la durée de l'objet, son bon fonctionnement, il y a la conception même de cet objet. Est-ce qu'il est facile à utiliser? Est-ce qu'on voit clairement à quoi il sert? On s'est aperçu, par exemple, aux États-Unis, à une certaine époque, où il y avait une surabondance de tableaux de bord sur les machines, que les ménagères développaient une certaine maladie psychologique vis-à-vis de ces machines, un complexe d'infériorité. Bon, ça a été laissé, ils sont revenus en arrière, les machines sont plus simples à étudier. Effectivement, c'était très impressionnant d'acheter une machine qui ressemblait, il y avait un tableau de bord qui ressemblait à une machine scientifique. Mais alors ça, c'est notre rôle, ça, de simplifier ces rapports, de les rendre clairs.
Le complexe d'infériorité de la ménagère, Régine Charvet-Pellot, son design, ce qu'il pensait, ses objets, il voulait vraiment les mettre au service de ceux pour qui il les faisait. Hein. Il fallait quand même un côté pratique, fonctionnel.
Mais normalement, c'est la base du designer. Le designer, il est là pour justement être au service de ceux qui vont utiliser, aimer, détester même les objets qu'ils vont voir passer dans leur vie quotidienne. Et Roger Talon a beaucoup travaillé pour notre vie quotidienne. Beaucoup d'objets sont signés Roger Talon, même ceux, on n'imaginerait pas, des objets vraiment très simples qui nous ont forcément croisé un jour ou l'autre n'importe quelle génération d'utilisateurs ou d'usagers. Voilà.
Françoise Jolland, on entend bien qu'il avait une conception grand public, mais aussi service public finalement de son design. Hein. Le fait de ne pas parler de clients, mais d'usagers, on voit à qui il s'adressait.
Toutefois, il est certain que les choses, encore une fois, ont évolué avec le temps. Parce que quand il commence à travailler pour la SNCF, dans les années 60, à fin des années 60, utilise le terme d'usager et non pas celui de client. Or, lorsque Roger Talon commence à travailler pour la SNCF, c'est parce que il y a un problème. La SNCF est en train de perdre des parts de marché avec le développement des infrastructures autoroutières et de l'automobile d'un côté et de l'avion commercial de l'autre. La SNCF commence à perdre des clients. Or, elle s'en inquiète. Et petit à petit, l'usager, qui n'avait pas droit à la parole, va devenir le client. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de retournement. Je crois qu'en fait, Roger Talon voulait dire qu'il faut s'occuper à la fois de l'usager parce que le produit doit être au service de la personne, mais en même temps, l'usager est un client. Ça veut dire qu'il faut le satisfaire.
Et alors, vous nous disiez, François Jolland, qu'il y a eu plusieurs Roger Talon, plusieurs époques, disiez-vous. Le Roger Talon qu'on vient d'entendre, c'était celui de 1971. Puisqu'on parle de rail, toujours à contre-courant, hein, Roger Talon arrondissait les angles à une époque où il était question que d'angle droit. Dans un autre entretien à Télérama, paru peu de temps avant sa mort, il estimait que les vrais designers sont donc des masochistes, tant ils doivent se battre contre leur époque. Lors de ses premières propositions à la SNCF, en effet, pour le design du train Corail, Régine Charvet-Pellot, il raconte qu'il avait tout l'état-major de la SNCF contre lui. Un demi-siècle plus tard, on a quand même parfois un peu du mal à saisir ce que son design avait de si révolutionnaire pour l'époque.
Mais parce qu'il a changé complètement le point de vue de la conception et le point de vue de l'usage du train quand il a fait le Corail. On a complètement oublié qu'on était dans des compartiments. Les trains étaient très compartimentés, vraiment très fin 19e, début 20e. Et là, le Corail ouvrait complètement les espaces, donnait la capacité de soi-même se déplacer dans le train avec facilité, voir d'autres personnes beaucoup plus loin. Et on passait d'un voyage dit bourgeois, fermé, des petits salons, à un voyage beaucoup plus populaire. Et évidemment, c'est un changement radical de paradigme. On change complètement de vision. Et c'est normal qu'il ait eu à batailler longtemps pour obtenir cette nouvelle approche.
Alors, Roger Talon, designer du rail, au début des années 90, à l'occasion d'une rétrospective qui lui était consacrée au centre Pompidou, il parlait justement de son amour des trains.
Voici le TGV New Look, ou plutôt sa maquette grandeur nature. Ce train à deux étages de la nouvelle génération a été entièrement redessiné. Et voici son géniteur, Roger Talon, 64 ans, profession designer industriel.
C'est un TGV qui va rouler beaucoup plus vite, puisqu'il va rouler au-delà de 300 à l'heure. Et c'est ce qui explique son aérodynamisme plus enveloppé, avec moins de saillie, un cockpit revu entièrement, c'est-à-dire que toute la partie conduite de ce train sera adaptée aux normes européennes.
Est-ce que vous le trouvez beau, ce train ?
Ben moi, je répondrai toujours que beau, ça ne veut rien dire pour moi, mais je trouve qu'il a une certaine tronche, oui.
Tout ici a été choisi par Roger Talon en accord avec la SNCF. De la couleur des moquettes et des peintures jusqu'au moelleux des fauteuils.
Je suis en fait sculpteur, coloriste, graphiste, technicien, donc entre autres sculpteur, oui.
Voilà, Roger Talon, avec un petit peu de friture sur la ligne du TGV, c'est normal. En fait, il est un peu un homme à tout faire, hein, Dominique Forest, Roger Talon. Il le disait, sculpteur, coloriste, graphiste. C'est peut-être même ça, sa définition du designer, être un peu partout dans notre quotidien, sans qu'on s'en aperçoive.
Oui, c'est vrai que Roger Talon a toujours beaucoup insisté sur le design global, donc global au sein de chaque projet. Par exemple, pour le projet du corail, il s'intéresse absolument à tout, à la livrée extérieure, au confort des sièges, au pictogramme, à la façon dont les gens vont se déplacer dans le train, aux lumières. Donc pour chaque projet, il y a toujours une approche très méthodique, très rigoureuse, qui caractérise absolument tout son travail et dans lequel il tient compte de tous les aspects, jusqu'à la commercialisation. On le voit par exemple dans certaines chaises qu'on présente comme les chaises Wimpy, où il avait prévu, c'est des chaises qui sont démontables et on pouvait les vendre par deux. Donc il étudie la façon de les vendre, le logo, tout est étudié. Et pour lui, le design, ça n'est effectivement pas une chose isolée où on dessinerait seulement une pièce, c'est l'ensemble de ce qui va autour et qui a un rôle très important dans l'usage. Donc ça, il est très très attaché à la fonctionnalité, et la fonctionnalité, elle passe effectivement par tout ce qui va autour, la signalétique, l'emballage, et ça, au sein de chaque projet, on l'a vraiment vu à travers ses archives.
Design global et fonctionnalité, dites-vous, son credo, lui, ce qu'il en disait, c'était la transfonctionnalité.
Oui, la transfonctionnalité, mais on le voit bien dans cette rigueur qui existe dans chaque projet. C'est vraiment sa marque de fabrique, et ça dès le début. Je pense que s'il arrive justement à nouer un dialogue aussi important avec les entreprises, c'est justement parce qu'il leur parle d'un design global, où il tient compte de tous les aspects techniques et d'aspects.
Et Françoise Jolland, Roger Talon s'est définitivement fâché avec la SNCF quand celle-ci a choisi de confier le réaménagement intérieur des TGV à Christian Lacroix, le couturier, ce qu'il assimilait quelque part à du bricolage. Le stylisme, pour lui, c'était un peu l'artifice, le superflu. Il n'était pas tendre avec les autres disciplines, hein.
Il n'était pas tendre dès l'instant où il pensait qu'il avait raison.
Est-ce qu'il avait tort parfois ?
Oui, il avait tort.
Non, nous dirait Jean Charles Pélo.
Oui, aussi. Mais dans le cas de la SNCF, c'est vrai que il s'est senti profondément trahi. Lorsque effectivement on a confié la SNCF à d'autres créateurs, je pense qu'il se serait senti trahi de toute façon, quel que soit le créateur. La SNCF, c'était lui. Hein, il s'était tellement consacré à ça, il s'était tellement identifié finalement au train que tout était trahison. Donc je crois qu'il faut un petit peu... voilà. Mais il avait encore une fois le verbe haut.
Il était entier, on l'a bien compris. Régine Charvet-Pello, il n'était pas facile non plus, ou il était très critique envers la nouvelle génération de designers, des petits stars en puissance qui ne rêvent qu'à faire du beau et à gagner de l'argent. Lui, le prof aux arts déco, il n'était pas facile d'accès.
Alors, pas facile d'accès, je n'ai pas eu...
Vous l'avez pas eu en enseignant.
En tant qu'enseignant, déjà, c'est une chose. Et je ne l'ai rencontré que quand moi-même, j'étais déjà designer confirmé. Et je l'ai invité à venir participer au tramway de Tours. Donc,
mais vous étiez quand même plus jeune que lui. Est-ce qu'il y avait l'idée d'une transmission ?
Ah oui, c'était très très intéressant quand il est venu travailler sur le tram de Tours avec nous et les autres grands comme Buren ou comme Louis Dandrel, il travaillait avec mes jeunes designers. Et il s'asseyait aux tables et il parlait, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il voulait absolument transmettre, donc il parlait, et ça pouvait durer des journées entières, juste à écouter Roger Talon. Et je crois que c'était une magnifique école qu'il vienne dire des choses aux jeunes designers que nous avions dans nos équipes.
France Culture, il est midi, passé de 20 minutes, rétrospective Roger Talon qui commencera jeudi au Musée des Arts Décoratifs. On parle de l'œuvre de ce designer du rail ensemble jusqu'à midi et demi. Agenda culturel à noter, Light of Gold, extrait du nouvel album dans les bacs depuis vendredi de la chanteuse Sky Edwards, la voix de Morshiba en tandem avec le guitariste-compositeur, autre membre fondateur du groupe, Ross Godfrey, entre trip-hop, blues et soul, comme on les aime. Ils seront à noter une date unique à l'Élysée-Montmartre à Paris, le jeudi 20 octobre.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Rétrospective Roger Talon avec deux commissaires, les deux commissaires de l'exposition, Dominique Forest et Françoise Jolland, et avec Régine Charvet-Pellot, elle-même designer, qui a bien connu Roger Talon. On est ensemble jusqu'à midi et demi. J'ai commencé cette émission en faisant une sorte d'inventaire à la Prévert de certaines créations avec vous, de Dominique Forest, des créations de Roger Talon. Alors, le poste de télévision, l'escalier, les caméras, il y avait aussi toute la vaisselle qu'il a pu construire. Ça nous fait quand même un peu penser tout ça aux choses de Georges Perec. Qu'est-ce qu'il était dupe, lui, Roger Talon, devant ce mirage de la consommation ? Dominique Forest.
Ben, il accompagne, c'est sûr, une consommation grandissante. Hein. À l'époque, le salon des arts ménagers, par exemple, a un succès considérable. On voit des files d'attente incroyables devant le Grand Palais. Donc effectivement, il accompagne... l'arrivée de nouveaux objets. Il y a les nouveaux objets qui dessinent, effectivement, sont pour certains, le réfrigérateur en est un bon exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, des choses qui arrivent sur le marché ou qui sont faites en particulier par les Américains. Et à ce moment, l'industrie française commence à développer tout un tas d'objets comme ça qui sont pour certains nouveaux. Donc effectivement, il accompagne évidemment la société de consommation.
Il l'accompagne, mais avec quelle distance critique et avec quel regard sur cette société de consommation, Françoise Jolland? Roger Talon était très impliqué aussi dans la vie des idées. Il adorait ça, débattre pendant des heures de sa passion, de son métier. Il a même essayé de convaincre Baudrillard, le philosophe critique de la société contemporaine, des bienfaits de la société de consommation. Il participait activement au débat intellectuel en France et dans le monde. Est-ce que que c'était ça ramenait aussi à sa conception du métier de designer, avec cette idée de développer une façon de penser le monde à travers son métier.
Je pense que c'était effectivement une façon de penser le monde. Il a eu la chance, pourrait-on dire, d'arriver à une époque où tout était à construire, y compris le mode de pensée contemporain de l'époque. Et je crois qu'il était extrêmement intéressé par les débats d'idées. Il était extrêmement intéressé aussi par le fait que le design est une discipline, était à l'époque une discipline totalement neuve, et dont il s'est aperçu très vite qu'elle était à la croisée du politique, de l'économique et du culturel. Et Roger Talon a toujours situé le design au milieu de ces trois éléments.
On l'écoute une dernière fois nous parler justement de son métier de designer et de sa conception de son rôle.
Je pense que le design ne correspond qu'à une réponse dans un climat de contrainte. Donc, sans contrainte, il n'y a pas de design, selon moi. L'artiste, il peut faire ce qu'il veut, il peut même faire des miracles, comme certains l'ont fait, mais pas le designer. Le designer, il répond à des besoins, une demande qui correspond à un grand nombre de ses concitoyens, et pas du tout une vue absolument idyllique du devenir. En 69, le Mobilier National m'a demandé de faire une série de sièges pour le Grand Palais. À l'époque, je travaillais sur cette forme tulipe, et j'ai utilisé les matériaux qui s'imposaient. Je pense que ce qui est intéressant dans ce mobilier, c'est cette synthèse, une forme aussi simple pour une fonction aussi simple. Mais tous les objets qui sont dans les greniers, dans les ventes publiques ou autres, n'ont à l'origine jamais été conçus pour être ni dans des ventes publiques ni dans des greniers. Ils ont été conçus pour vivre avec des gens de leur époque. Si des gens d'une autre époque s'intéressent à eux, tant mieux, c'est une autre vie qui se découvre, mais ce n'est pas l'objectif. Faire vendre plus, c'est une illusion, c'est un fantasme de commerçant arriéré, ça. On ne fait pas vendre plus, on fait vendre mieux. Je crois que le problème du design entre deux objets, l'un bien conçu, l'autre moins bien conçu, il y a un coefficient de satisfaction qui fait la différence.
Et Roger Talon disait aussi « Je ne suis pas un intuitif, je suis dans la réalité la plus totale, je ne plaque pas de l'art sur de l'utilitaire. » Utilité, fonctionnalité, qualité, c'est un peu son triptyque gagnant avec cette idée de vendre mieux plutôt que de vendre plus. Mais juste pour terminer sur cette idée, cette figure du designer, est-ce que c'est aussi une figure de l'artiste? Parce que Roger Talon, il mélangeait un peu toutes les influences, hein, l'art contemporain, le cinéma, la sémiologie. Est-ce que c'était un artiste complet pour vous, Françoise Jolland?
Je pense qu'on ne peut pas dire que Roger Talon était un artiste. Roger Talon était certainement un homme à l'intelligence complète, dans la mesure où il l'associait absolument et il s'est entouré à toutes les étapes de sa carrière de sociologue, de philosophe, d'artiste, de designer, bien sûr. Il prenait les avis, il ne les suivait pas toujours à la lettre, c'est certain, avec son caractère, il savait toujours tout, ou donnait l'impression de savoir toujours tout, mais en fait, il assimilait les avis et les opinions des autres, beaucoup plus qu'on aurait pu penser.
Régine Charvet-Pellot, on termine peut-être avec vous et cette démarche, est-ce qu'elle est la vôtre aussi également? Roger Talon disait, ce sont toujours les gens qui innovent, qui sont ceux qui font demain, donc c'est un jeu très facile puisque demain, on le fabrique soi-même.
C'est une belle vision d'avenir. Hein. C'est d'abord une très belle citation, de très belles paroles. Et je dirais que dans la même veine que Roger Talon, nous, à chaque fois qu'on travaille sur des projets de design, c'est aussi des aventures. Et les aventures, on ne sait pas exactement de quoi elles sont faites avant. L'intérêt aujourd'hui, ce qu'on a un peu perdu, c'est le temps. C'est le temps de faire. Et nous, nous essayons de garder le temps de faire en tant que designer pour justement éviter de travailler que sur l'aspect marchand.
Le temps de faire et le temps de penser à ce qu'on fait, c'est peut-être à ça qu'il faudra penser justement en allant voir cette rétrospective au Musée des Arts Décoratifs à Paris qui commencera ce jeudi avec un catalogue à l'appui très riche, très détaillé. Roger Talon, le design en mouvement. Merci beaucoup, mesdames. À suivre dans la deuxième partie de la Grande Table, le nouveau Front National est-il aussi nouveau qu'on vous le fait croire ? L'historien Grégoire Kaufmann est notre invité à partir de 12h55.